Saint-François d'Assise, au fond, tout le monde le connaît. Mais je me demande si on le connaît suffisamment bien, chacun d'entre nous. Il est mort en 1226, et je crois bien avec beaucoup d'autres et beaucoup de ses disciples, les franciscains, les capucins, les conventuels, les franciscaines missionnaires de Marie et toutes les autres franciscaines, et les franciscains laïcs, que l'on appelait autrefois les membres du tiers-ordre, eh bien, je crois avec eux que c'est un saint pour le troisième millénaire. Il a vraiment à cœur le souci de la pauvreté des pauvres et des simples. Et la remise des dettes actuellement qui semblent vouloir s'opérer à l'égard des pays qu'on appelle en voie de développement ou les pays pauvres, et justement, je crois, le fruit de toute une pensée qui vient de son cœur et qui vient de toute façon de l'Évangile et du cœur du Christ. Je m'inspire aujourd'hui d'un texte que j'ai trouvé dans Michel Clévenot, Les Hommes de la Fraternité. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir vu cette émission à la télévision de Radio-Canada à Rencontre, le 20 novembre 1988, il y a déjà plus de 10 ans, Michel Clévenot, qui est un historien et qui fait de l'histoire de façon très intéressante, parfois avec des petites pointes qui me déplaisent, mais je le trouve sympathique dans son esprit de justice, de révolte contre les choses qui ne vont pas, à son avis du moins. D'ailleurs, à l'intérieur du franciscanisme, il y a des franciscains que je ne vous ai pas mentionnés tout à l'heure. Ce sont les franciscains de l'Emmanuel que l'on retrouve ici à Montréal. Il y en a de semblables dans l'État de New York qui sont assez nombreux. Ici, je crois qu'ils ne sont que 2, les franciscains de l'Emmanuel, qui donnent beaucoup de conférences, de réunions pour les jeunes sur la rue Bélanger à Montréal. Ils sont, je crois, à l'angle de Christophe Colomb. Ils font l'analyse aussi du catéchisme catholique. Ils sont très actifs, ces deux jeunes, avec beaucoup d'aide, j'imagine. Or, François d'Assise a commencé, lui aussi, tout simplement, comme ça, seul. Et de son vivant, il était, pour ainsi dire, inclassable. Il était dérangeant aussi. Il avait fait l'objet, avant sa mort, de stratégies de récupération, comme on pourrait dire, c'est-à-dire on voulait le récupérer, le mettre à l'intérieur de la ligne des grands ordres, comme les bénédictins, avec des règles, des constitutions, des grands monastères, des bibliothèques, etc. Il voulait pas ça. De toute façon, il a très vite canonisé, je crois, en 2 ans, il a été encensé, on pourrait dire embaumé. Il a été tiré de tous côtés par ceux qui cherchaient à utiliser à leur profit son immense renommée puis l'énorme potentiel d'énergie que ça représentait. D'ailleurs, 40 ans après sa mort, il y a eu une version officielle puis qu'on jugeait orthodoxe là, de sa vie et qui avait été mise au point. Puis toutes les autres qui semblaient dire plutôt les choses vraies ont été jetées au feu, paraît-il. Mais la critique moderne, heureusement, n'aurait trouvé trace et il est donc possible de raconter la véritable histoire de François d'Assise et de comprendre pourquoi elle a paru si dangereuse à certains de ses contemporains. Hein? Mais qui était-il? D'abord, il ne s'appelait pas François vraiment, il s'appelait Jean. C'est son nom de baptême. Il est né en 1182. Il est donc mort à environ 44 ans. À Assise, il est né à Assise. Son père s'appelait Pietro Bernardone. C'est un marchand de draps, riche. Sa mère s'appelait Pica. Et ce garçon, Jean, n'a pas tellement le goût pour les études. Il sera tout juste lire et écrire, ça peut consoler bien des gens qui ne savent à peu près que lire et écrire. Bien, vous avez un patron, Saint-François d'Assise. Mais il est formidable, il apprend par cœur les chansons de gestes et les poèmes des troubadours qu'il aime à réciter en français. D'où, probablement, et même certains disent sans doute, le surnom qui lui restera de Francesco, le français ou François. très tôt associé aux affaires de son père. Il l'a peut-être accompagné d'ailleurs dans des foires pour vendre ses pièces de drap, là, en Champagne. Et plutôt dans le nord de la France, hein, c'est un peu au nord de Paris. Et puis en Provence, ça c'est plus près de l'Italie. Au vrai, il fréquente surtout la jeunesse excitée de la ville d'Assise. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépense sans compter l'argent de son père et des familles riches. Alors, il organise des banquets, des sérénades, des excentricités. Ça fait un peu penser à Charles de Foucault. Il participe aussi à des cavalcades meurtrières, dit-on. Vous savez que Saint-Ignace de Loyola, il est, selon certains historiens, aurait été mêlé à des choses meurtrières aussi. Donc, il va à cheval et puis participe à ces cavalcades meurtrières, auxquelles, de toute façon, les bourgeois d'Assise se livrent contre leurs voisins de Perugia, de Pérouse. En 1202, bon, il a une vingtaine d'années, il est fait prisonnier. Et à peine libéré, il achète un équipement tout neuf pour rejoindre les troupes du pape Innocent III en guerre contre les armées impériales. Mais en route, il y a une voix intérieure qui l'interpelle. Et il entend cette voix au fond de lui-même. Est-ce qu'on n'entend pas nous-mêmes des voix parfois au fond de nous-mêmes? La voix de notre conscience. Et peut-être la voix de Dieu lui-même. Ou peut-être de notre ange gardien, qui sait? Ou de nos parents défunts. De nos enfants défunts. Il entend « De qui peux-tu attendre le plus, du maître ou du serviteur ?» Alors il dit « Du maître, évidemment. » Alors la voix lui dit « Alors pourquoi suivre le serviteur au lieu du maître dont il dépend ?» Il n'y a pas à s'y tromper, hein, le serviteur c'est le pape, et le maître c'est le Christ. Donc ne pas suivre le pape dans ses guerres, contre des armées impériales, qu'est-ce que fait le pape dans des guerres, n'est-ce pas? C'est assez étrange. Alors François abandonne l'armée du pape, l'armée pontificale, pour s'enrôler dans celle du Christ, et pour lui, aucun doute, cette armée-là, c'est celle des pauvres, et pour lui, c'est une double découverte. La croissance économique n'a pas supprimé la pauvreté. Elle en a modifié le visage. Au XIIe siècle, le véritable bond en avant de la société européenne, là, entraîne l'apparition de nouveaux pauvres, comme aujourd'hui un peu. Et l'explosion démographique, la population de l'Europe a doublé, peut-être triplé en deux siècles, n'est pas compensée par les défrichements des terres pour alimenter tout ce monde-là, et les terres cultivables manquent. Il faut dire aussi, et c'est pas très aimable pour les bénédictins et les cisterciens, les ordres monastiques, anciens et récents d'ailleurs, en accaparent souvent. Et ces ordres-là ne se gênent pas parfois pour expulser même les villageois de leurs maisons puis de leurs champs. Assez pénible comme événement dans l'histoire de l'Église. Et la hausse des prix, la spéculation, l'endettement poussent toute cette marginalité, même les cadets de l'aristocratie qui sont exclus de la succession paternelle, qui héritent de rien, puis qui sont acculés à l'errance puis au vagabondage. Alors, dans les villes surpeuplées, traînent des milliers de sans-abri, dépourvus de toute ressource et réduits à la mendicité. Alors, pour faire face à cette nouvelle pauvreté, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu comme nous, aujourd'hui, on est mal pris. Il se développe et se crée des œuvres d'assistance et de charité. Vous en entendez souvent parler à cette émission, qui suit la mienne, le Carrefour des aînés. Et dans d'autres émissions à Radio Ville-Marie. Alors, il y a des l'assistance aux pauvres, des œuvres d'assistance, de charité, des asiles, des hôpitaux, des institutions de bienfaisance, et voici que la réflexion chrétienne tend de plus en plus à assimiler le pauvre au Christ. François d'Assise découvre à la fois l'existence des pauvres et la nécessité absolue pour leur rendre leur dignité de s'en aller vivre comme eux et avec eux. Pas facile. Lors d'un pèlerinage à Rome, il échange ses habits d'ailleurs avec un mendiant. Et François d'Assise va quêter devant la basilique Saint-Pierre. Et ça ne lui suffit pas. Et c'est l'épisode fameux, vous savez, du baiser au lépreux. Dans son testament, il le rappelle, son testament le rappelle, ça marque le tournant de sa conversion. Je cite, « Autant de ma vie pécheresse, rien ne me dégoûtait, comme de voir des lépreux. Ce fut le Seigneur qui me poussa à aller vers eux. Je le fis, et dès lors, tout fut tellement changé pour moi que je trouvai doux et aisé ce qui m'avait d'abord semblé pénible et insurmontable. Et peu après, j'abandonnai le monde définitivement. Le monde, là, le monde dans le sens du monde du péché. Encore incertain, donc, sa vocation, il hésite. Hein? Mais, il n'hésite jamais à suivre à la lettre et sans glos, sans commentaire, l'inspiration de son désir. C'est un homme entier, c'est un jeune homme total. En prière devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, il entend un jour le Christ qui lui dit « François, François, occupe-toi de réparer ma maison qui tombe en ruine. » Et aussitôt, bien, il vend son cheval et tout un lot d'étoffes de la boutique de son père pour payer la reconstruction de la petite chapelle. Son père est furieux, il porte plainte devant les consuls. Alors François se réclame du service de Dieu, puis il en appelle à l'évêque. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Sur la grande place d'Assise, en présence d'une foule nombreuse, l'évêque, qui s'appelle Guy, somme le fils prodigue, François, de restituer ce qu'il a emprunté, entre guillemets. Alors François rend l'argent, puis il se dépouille de ses vêtements, qu'il pose aux pieds de son père. Il enlève ses vêtements. « Écoutez-moi, s'écrie-t-il, jusqu'ici j'ai appelé Pierre Bernardone et mon père, mais maintenant je veux dire en toute vérité, notre Père qui êtes aux cieux. » Alors l'évêque le couvre de son manteau. François, à ce moment-là, a 25 ans. Puis en la personne de son père, il vient de rompre durement avec le monde de l'argent. Il peut maintenant, comme disait Robert d'Arbrissel, vous vous souvenez, « suivre nu le Christ nu ». Mais il a été couvert par l'Église. Merveilleux, n'est-ce pas, dont l'évêque Guy s'est montré un représentant très compréhensif. Quel bon évêque, hein? Et le petit pauvre, le poverello, comme on dit en italien, se met à prêcher, car le 24 février 1209, en la fête de Saint Matthias apôtre, la lecture de l'Évangile l'a frappé au cœur. « Allez annoncer que le royaume des cieux est proche. N'emportez ni or ni argent dans vos ceintures, dit Jésus, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâtons, car... l'ouvrier mérite qu'on pourvoie son entretien. » Alors, comme Robert d'Arbrissel ou d'autres à l'époque, Dominique, etc., François a entendu l'appel à la vie apostolique, se donner, faire quelque chose. Et pour lui, comme pour eux, bien, le récit évangélique est reçu immédiatement à la lettre et sans glose, comme on disait. Et ça fournit à la fois la forme et le fond de l'existence chrétienne authentique, ce qu'il a compris de l'Évangile. Non seulement il le met en pratique, ce qui n'est déjà pas si commun, mais encore il le proclame. Puis, c'est une tâche dont la hiérarchie ecclésiastique se réserve à l'époque le monopole. Alors, c'est assez simple, surprenant, parce que à la différence de Robert d'Arbrissel, ou de Dominique, de Saint-Dominique, François est un simple laïc. Étrange. Alors, ce qui peut surprendre au début, c'est que François d'Assise, en dépit de son sens entier d'appartenance au Christ et à l'Évangile, mais il y a des disciples très rapidement. Il y a un marchand, Bernard de Quintavalle, un juriste, un homme de loi, Pierre de Catane, un paysan qui s'appelle Gilles ou Égide, puis un prêtre même, Sylvestre, et un chevalier, Ange Tancrède, puis très vite beaucoup d'autres. Alors délibérément, on peut dire que ce mouvement franciscain délibérément est communautaire. C'est fondamentalement communautaire. Ça fait tache d'huile, ça se répand. Et c'est la concurrence par conséquent de tous les ordres reconnus, puis les institutions établies. Alors, comment les autorités vont-elles réagir? Comment les évêques, qu'est-ce que les évêques vont dire, puis les supérieurs de ces grandes communautés établies? François n'est pas autre chose qu'un simple laïc, je vous le rappelle. Et François d'Assise prend le taureau par les cornes. En 1210, qu'est-ce qu'il fait? Il rédige une règle, petite règle. Puis il décide d'aller la faire approuver par le pape. C'est original pour un jeune homme, hein? Naturellement, ce document a été perdu, dit-on. Mais les érudits ont pu en reconstituer l'essentiel, je lis des passages. Vivre dans l'obéissance, en chasteté et sans bien propre, et suivre la doctrine et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, et donne-le aux pauvres. Si quelqu'un voulant par inspiration divine embrasser cette vie, vient à nos frères, qu'ils le reçoivent avec bonté, que le postulant vende tous ses biens et prenne soin de distribuer le tout aux pauvres, et que tous les frères soient vêtus d'habits pauvres, et puissent les rapiécer au moyen de sacs et d'autres morceaux avec la bénédiction de Dieu. Plus loin, on peut lire que les frères qui savent travailler, travaillent et exercent ce même métier qu'ils ont appris. Ce n'est pas contraire au salut de leur âme, et s'ils peuvent le faire avec décence, évidemment. Et que les frères puissent, pour prix de leur travail, recevoir tout ce qui leur sera nécessaire, l'argent excepté. Et quand ce sera nécessaire, qu'ils aillent demander l'aumône comme les autres frères, ou, si vous voulez, comme les autres pauvres. Il ajoute qu'aucun des frères, où qu'ils soient et où qu'ils passent, ne prennent en aucune façon, ne reçoivent ou ne fassent recevoir argent ou deniers, ni pour se procurer des vêtements ou des livres, ni comme salaire ou de quelque travail. Je me souviens, quand j'étais jeune, on voyait des franciscains qui pouvaient attendre le tramway, là, mais il fallait leur donner un billet de tramway, là, parce qu'ils n'en avaient pas, ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient leur costume, évidemment, à l'époque. Ils étaient même tonsurés, des tonsures. Ils étaient en sandales. J'ai vu ça, il n'y a pas si longtemps. François écrit dans sa règle, absolument sous aucun prétexte, l'argent, sauf dans le cas de nécessité manifeste pour les frères malades, car nous ne devons pas trouver et accorder à l'argent et aux deniers plus d'utilité qu'aux cailloux. Il va pas de main morte, hein. Et le démon veut aveugler ceux qui les désirent ou les estiment plus que les pierres, plus que les cailloux. Que tous les frères s'efforcent d'imiter la pauvreté et l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ et se souviennent que de toutes les choses du monde, nous ne devons rien posséder que ce dont l'apôtre dit. Si nous avons des aliments et de quoi nous couvrir, nous devons être satisfaits. Et ils doivent se réjouir et se trouver parmi des gens de peu et méprisés. Des pauvres, des infirmes, des malades, des lépreux et des mendiants de grand chemin. Et quand ce sera nécessaire, qu'ils aillent demander l'aumône. Alors, comprenez, muni de ce simple texte, où l'on retrouve plusieurs phrases d'évangile, d'ailleurs, le poverello se rend donc à Rome avec quelques compagnons, puis il est très brave. Il entre au palais du Latran, c'était au Latran dans le temps. Il se présente... C'est l'église mère de toutes les églises, les Saint-Jean de Latran, hein, vous savez ça. Puis il se présente, sa petite règle à la main, devant le pape Innocent III. Il y a un chroniqueur anglais, Matthew Paris. Le pape raconte que le pape aurait regardé de façon un peu ironique Saint-François avec sa pauvre tunique, écrit-il, sa chevelure en désordre et ses immenses et noirs sourcils. Puis il lui aurait lancé... « Laisse-moi tranquille avec ta règle. Va plutôt retrouver tes cochons, puis leur prêcher tous les sermons que tu voudras. » Pas très gentil, ce pape, hein, mais attendez. Prenant toujours tout au pied de la lettre, ce qui, soit dit en passant, dénote un humour assez corrosif, hein, François court à une porcherie. Il écoute le pape, il se barbouille de fumier, puis revient devant le pape. Raconte ce chroniqueur. « Seigneur, maintenant que j'ai fait ce que vous m'aviez commandé, dit-il au pape, ayez à votre tour la bonté de m'accorder ce que je sollicite. » Alors il paraît qu'Innocent III l'aurait, en souriant, envoyé se laver, après lui avoir promis de lui accorder une audience. C'est un homme de gouvernement, Innocent III. C'est un homme remarquable, un pape qui avait beaucoup d'allure. Et il pense en termes d'organisation, puis lui dit, « Bien que votre ferveur, mes très chers fils, nous rassure sur votre compte... » Il nous faut cependant songer à vos successeurs qui peut-être trouveront trop austère la voie où vous voulez marcher. Là, il y a un ami, quelqu'un qui aime beaucoup François, c'est le cardinal Colonna, une grande famille, les Colonna, qui répond au pape, « Si nous rejetons la demande de ce pauvre sous pareil prétexte, ne sera-t-il pas difficile d'affirmer que l'Évangile est impraticable? Et est-ce que ce serait alors... blasphémer le Christ, son auteur. » Alors, songeur, Innocent III remet sa décision à une troisième audience, et là, c'est la rencontre de la dernière chance, et devant le pape encore indécis, puis la majorité des cardinaux qui sont plutôt réticents, mais faut les comprendre dans un sens, hein, parce que François a l'air un peu étrange, un drôle de bonhomme. Alors, François joue le tout pour le tout. On fait, je lis un texte ancien, on fit cette objection à frère François. Qui donc va pourvoir à la nourriture de tes frères, car tu acceptes sans sourcil tous ceux qui se présentent? Il répond, une femme fut un jour violée par un roi dans la forêt. Elle eut un fils, qu'elle nourrit quelque temps. Puis elle vint à la cour demander que le roi se chargeât de lui désormais. Alors le roi répondit, il y a tant de vauriens et d'inutiles dans mon palais, il est juste que mon fils illégitime soit nourri comme eux à ma table. Pour expliquer cette parabole, frère François, il bat pas de main morte, il dit que cette femme, c'était lui. Et que le Seigneur l'avait fécondé par sa parole, et il avait engendré des fils spirituels. Très original, hein? Alors, il considère ses fils spirituels comme ses enfants, engendrés par l'action du Seigneur. Et puisque le Seigneur nourrit déjà tant d'injustes dans son Église, il ne faut pas trouver étonnant qu'il pourvoie aussi à la nourriture de ses propres fils. Alors, quel culot! Alors voilà que l'amour-passion qui se moque des institutions de l'amour. Voilà le bâtard, on pourrait dire, qui oblige tous les vauriens inutiles et injustes, là, ce sont ces mots, grassement nourris à la table paternelle, à lui faire de la place qui lui revient, celle du fils bien-aimé en qui son père se plaît à se reconnaître. Et on imagine la tête des cardinaux, hein? Non, c'est formidable. Cette audace, imaginez, enchante le pape Innocent III. Il y discerne, lui, cet homme de Dieu, finalement, ce qu'il y a d'abrupt dans l'Évangile. Et cette fois, l'occasion ne sera pas perdue de mettre au service de la grande réforme de l'Église les énergies toutes neuves d'un mouvement évangélique. Sa dévotion, l'emportant, écrit-on, le pape acquiesça sans réserve, vouant au serviteur du Christ un amour tout spécial, qui ne se démentit jamais, et non seulement il lui accorda tout ce qu'il demandait, mais il lui promit de donner plus encore dans la suite. Le texte continue, il approuva sa règle, lui donna mission de prêcher la pénitence, et fit faire de petites tonsures à tous les laïcs, compagnons de François, pour leur permettre de prêcher la parole de Dieu sans être inquiétés. Ce détail des petites tonsures est admirable, très sympathique. Aujourd'hui, il est question de Saint François d'Assise, dans toute l'Église, et sa fête. Je vous ai dit que le pape avait fait faire des petites tonsures à tous les laïcs, compagnon de François. Il n'avait pas le droit de porter la tonsure. La tonsure était un signe de cléricature, c'est-à-dire d'être membre des clercs dont on recevait la tonsure et ça préparait aux études et finalement on devenait prêtre. On peut souligner comme ça que le mouvement de Saint François se cléricalise un petit peu. François lui-même d'ailleurs a été fait diacre. Et malgré tout, un point capital vient d'être acquis. On pourrait dire, être chrétien ne consiste pas d'abord à observer des dogmes, des rites, une morale, comme il y en a qui pensent, mais ça consiste radicalement à suivre le Christ, c'est-à-dire à pratiquer l'Évangile. Mieux, le geste d'Innocent III, ce pape étonnant, signifie que l'Église reconnaît avoir besoin de s'entendre rappeler au milieu de la lourdeur et de la routine de ses institutions qu'elle doit s'effacer toujours devant l'Esprit Saint qui souffle où il veut. Et on voit ça avec les petites sœurs de Jésus, les frères de Jésus de Foucault, là, les sœurs de la charité de Mère Teresa. Et ça a toujours été comme ça dans l'Église. Il y a toujours eu des mouvements très évangéliques qui réforme l'Église. L'Église est en perpétuelle réforme. C'est extraordinaire, cette Église. De retour à Assise, les frères mineurs avec Saint François, c'est ainsi que François les appelle, les frères mineurs, car il tient à ce qu'ils se considèrent comme les plus petits, minores, c'est ça que ça veut dire, mineur. Comme on dit, un enfant est mineur. Les petits, donc plus petits que les autres. Alors, ils vivent leur plus beau moment. Et là, la communauté est encore à taille humaine. Bon, les problèmes d'organisation, on peut dire, laissent assez intacte la fraîcheur de l'inspiration du début. Dame pauvreté, comme on dit, dame pauvreté règne en maîtresse. parce que François s'y est voué, puis ça marche. Et la personnalité du pauvre de Saint-François, son extraordinaire popularité, rien ne les fait mieux revivre que les légendes qui sont recueillies dans ce que vous connaissez, les Fioretti, que beaucoup de gens ont lu, ces petites fleurs du franciscanisme, des petites fables, des petites histoires. On connaît par cœur l'histoire du très féroce loup de Gubbio, hein. Il désolait la région de Gubbio. Puis le saint lui adresse un sermon. On trouve ça dans les Fioretti. Frère loup, tu fais par ici de grands dommages. Je veux faire la paix entre toi et ces gens. Mais je veux que tu me promettes de ne plus nuire jamais à aucun homme ni à aucun animal. Me promets-tu cela? Et le loup, en inclinant la tête, fit évidemment signe qu'il promettait. Puis, levant la patte droite de devant, il la mit familièrement dans la main de Saint-François. Le loup, raconte les Fioretti, vécut encore 2 ans à Gubbio. Il fut courtoisement nourri par les habitants, puis quand il allait par la ville et par les maisons, là, jamais aucun chien n'aboyait contre lui. Et finalement, frère loup mourut de vieillesse, ce dont les habitants eurent grande douleur, car en le voyant aller si paisible par la ville, il se rappelait mieux la vertu et la sainteté de Saint-François. D'où vient le secret de l'enchantement qui entoure les Fioretti puis la vie de Saint-François? C'est très simple. Mais cela a fait à l'époque l'effet d'une révolution. C'est une révolution qui dure encore et c'est une révolution qui est bonne pour le 3e millénaire, hein? Parce qu'au contraire de certains moines, même aujourd'hui, qui, depuis des siècles, ressassaient le mépris du monde, même l'horreur du corps, hein, on voit ça dans des récits de certains moines, même de certains saints, c'est terrible. Et ces moines ne pensaient qu'à la nécessité de s'enfermer entre 4 murs pour faire son salut. D'une façon, non pas... qui était toute pénétrée de l'idée du corps mystique, mais qui était un peu sadomasochiste, je trouve. Mais voilà un garçon qui aime la vie. On lui a fait une réputation d'innocence un peu niaise, souvent, Saint-François. Vous savez, l'enfant, le jeune homme ravi de sa crèche, la crèche de Greccio, hein, vous savez, c'est lui qui l'a inventé, ça, avec le bœuf et l'âne, puis le petit Jésus sur la paille, bon. Il a inventé la crèche. D'accord. François n'est pas un naïf. C'est charmant, une crèche. C'est pas nécessairement un signe de naïveté. Je suis allé à Noël l'an dernier chez un ami athée, Jean Larose, qui a d'ailleurs un article du Tonnerre en fin de semaine dans Le Devoir. Et, il avait une crèche. Parce qu'il aime ça. Le mal, le péché, François d'Assise sait ce que c'est. Il n'a qu'à ouvrir les yeux pour constater partout la haine, la mesquinerie, la bêtise, mais il ne s'y arrête pas. Quand son regard se pose, c'est pour s'émerveiller. Quoi tant de trésors cachés, de beautés masquées sous des haillons, de possibilités infinies laissées à l'abandon. C'est terrible. En tout être vivant, Saint-François d'Assise décèle une source, et aussitôt, la source jaillit, elle court, elle chante. À le voir, à l'entendre, on comprend un peu ce que devait être Jésus, hein, un séducteur. Oui, Jésus est un grand séducteur. Faut se laisser séduire par Jésus. Quelqu'un qui vous tire à part, qui vous désembourbe, là, on a les pieds pris dans la glaise, là, qui vous dépoussière, fait le grand nettoyage, et vous lâche debout et libre sur le chemin. Et vous pouvez avancer vers Dieu, notre Père. Ah, un poète, Saint-François, un poète dont l'irruption chambarde vos habitudes et redonne un son neuf, étonnant, prodigieux, aux mots de tous les jours. Ah, Saint-François, il fait des miracles. Quand François paraissait, raconte les Fioretti, les oiseaux gazouillaient, les fleurs exhalaient leur parfum. Les hommes, les femmes, les enfants couraient en foule en criant « Ecco il santo, voilà le saint. » Et le soir du dimanche, Giramo, 18 mars 1212, a assise une jeune fille de 18 ans, vous la connaissez, hein, quitte furtivement le palais familial avec une amie d'un rendez-vous amoureux qu'elle a, oui. C'est Claire D'Offreduccio et Pacifica de Guelpuccio qui sont amoureuses. Elles sont amoureuses de François, mais du Christ ensemble, et sans la moindre équivoque quand même par rapport à François. Elles viennent se donner à eux, à lui surtout, au Christ. Dans la chapelle Notre-Dame des Anges, le petit pauvre leur coupe les cheveux et les revêt d'une bure semblable à la sienne, et les parents auront beau s'indigner, protester, tempêter, car protégé par l'évêque Guy, l'ordre des pauvres dames vient de naître, et on dit couramment les Clarisses. Il y en a plusieurs, si ça vous intéresse, les jeunes filles, il y en a plusieurs couvents de Clarisses au Québec. Bientôt, les deux sœurs de Claire, leur mère même, et deux nièces vont venir les rejoindre, et François va porter toujours une attention particulière à Sainte-Claire et à ses compagnes. Et avant de mourir, il leur écrira ces quelques mots. « Moi, petit frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre très haut Seigneur Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Et y persévérer jusqu'à la fin, et je vous supplie, mesdames, et je vous donne le conseil de vivre toujours dans cette très sainte vie et dans cette très sainte pauvreté. Et prenez bien garde à ne jamais vous en écarter en rien sur les enseignements et les avis de qui que ce soit. Mais ce conseil sera entendu, et lorsqu'en 1228, 2 ans après la mort de Saint François, le pape Grégoire IX, l'ex-cardinal Hugolin, va venir à Assise pour la canonisation de Saint François, il va tenter de retirer aux Clarisses le privilège de pauvreté qui les autorisait, exception unique chez les moniales, à ne posséder ni propriété ni rente. Il dit à Sainte-Claire, « Si ce sont vos vœux qui vous empêchent d'accepter des revenus, je puis vous en délier. » Et elle répond, c'est magnifique, « Saint-Père, c'est comme ça qu'elle l'appelle, répondit-elle, « Absolvez-moi de mes péchés. Mais pour ce qui est de suivre le Christ, je n'ai pas le désir d'en être dispensé. » Et cependant, la vie des frères mineurs, François n'aime pas le mot « ordre », n'a pas cessé de se développer. Vous savez qu'en France, les prêtres franciscains se font maintenant appeler frères. Hein? LSM, cette vie-là, là, dans toute l'Europe, elle compte dans ses rangs des prêtres, des savants, des théologiens. On bâtit, on organise, on installe, et François enrage. Oui, ça le fâche. Un jour que, soutenu par le cardinal Hugolin, et qui va devenir le pape Grégoire IX, des frères lui suggèrent d'adopter une vraie règle à l'imitation des moines traditionnels. Il pique une terrible colère, paraît-il. Oui, Saint François fait des colères, comme Jésus. Mes frères, la voie où je suis entré est celle de l'humilité et de la simplicité. Si c'est là une voie nouvelle, sachez qu'elle m'a été enseignée par Dieu même et que je n'en suivrai pas d'autre. Ne parlez donc plus des règles de Saint Benoît, de Saint Augustin ou de Saint Bernard. Le Seigneur qui veut que je vive pauvre et insensé selon le monde ne me donnera jamais de meilleure lumière. Pour vous, qu'il vous confonde avec votre sagesse et votre science, et que les exécuteurs de sa colère vous forcent à rentrer dans votre vocation si vous osez en sortir. Il n'y va pas de même ordre. C'est à cette époque-là, sans doute, que se situe le célèbre épisode raconté par les Fioretti. Un jour d'hiver, qu'il marchait en compagnie de son cher frère Léon, François entreprend de lui expliquer ce qu'est la joie parfaite. Et après avoir longuement énuméré tout ce qu'elle n'est pas, l'entrée dans l'ordre de tous les docteurs parisiens, de tous les évêques, archevêques, prélats et rois, le don de faire des miracles, de parler toutes les langues, de connaître toutes les écritures, il déclare, « Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges, ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, que nous frapperons à la porte du couvent et que le portier viendra en colère et dira « Mais qui êtes-vous » et que nous lui répondrons « Nous sommes deux de vos frères » et qu'il dira « Vous ne dites pas vrai, vous êtes même deux ribauds qui allez trompant le monde et volant les eaux au monde des pauvres, allez-vous-en » et si nous le supplions pour l'amour de Dieu et s'il sort avec un bâton noueux et qu'il nous saisisse par le capuchon et nous jette à terre et nous roule dans la neige et nous frappe de tous les nœuds de son bâton, si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse, en pensant aux souffrances du Christ béni que nous devons supporter pour son amour. Ô frère Léon, écris quand cela est la joie parfaite. Avant de terminer, je tiens à signaler que les éditions Fides publient une série de livres très intéressants qu'on appelle l'Expérience de Dieu. Et dans cette collection, je vends très bon marché, $15, il y a un clerc et François d'Assise admirable qui est dû au frère Roland Bonenfant, un franciscain, prêtre, qui est aussi au comité de rédaction de la très bonne revue franciscaine que je vous signale, revue franciscaine publiée à Montréal, 2000 boulevard René Lévesque, Ouest, à Montréal, H3H1R6, la revue franciscaine, c'est $10 par année, c'est sous la direction d'un franciscain vraiment remarquable, le frère René Beaubien. Les articles sont fascinants. Excellente revue, la revue franciscaine. Alors, désireux de souffrir par amour pour le Christ, saint François d'Assise saisit avec empressement l'occasion de la cinquième croisade en 1219 pour débarquer en Égypte. On raconte qu'il tente d'opposer son programme évangélique de comportement avec les musulmans à la politique de croisade et de violence prêchée par l'Église contre ceux que certains considèrent comme des chiens, cette race impie, etc. Le sultan Al-Kamil le reçoit fort courtoisement, mais ne se convertit pas. Alors, muni d'un sauf-conduit qui lui vient du sultan, saint François visite la Terre Sainte. Et au cours de l'été 1220, il faut dire que la Terre Sainte était occupée par les musulmans qui avaient conquis tout ça et qui parfois n'étaient pas toujours très aimables à l'égard des pèlerins catholiques. Je dis catholique parce que tout le monde était catholique dans le temps. Au cours de l'été 1220, il rentre précipitamment en Italie. On vient d'avertir que son œuvre est en péril et comme tous les ordres religieux précédents, la voilà menacée par sa réussite. C'est ce qui arrive souvent. C'est que pendant l'absence du fondateur, il y a eu certains frères franciscains, frères mineurs, influents, qui ont fait adopter des constitutions nouvelles. Elles encouragent les études, insistent sur la discipline, autorisent la construction d'énormes couvents. Alors saint François est malade de chagrin. Il fait évacuer les belles bâtisses toutes neuves. Il nomme un ministre général pour le seconder. Il reprend sa règle de 1210. Puis il y ajoute de nombreux passages d'évangile, puis supplie ses frères de s'y conformer, mais la révolte gronde. Peut-être encouragé en sous-main d'ailleurs par le ministre général, le frère Élie. C'est un personnage énigmatique qui va jouer un grand rôle dans l'évolution de l'ordre. Et de tous côtés, on réclame une règle moins vague, plus sévère. Bref, une règle comme en ont tous les autres religieux. Un document juridique méticuleux, quoi. Et plutôt formaliste, quelque chose. Oui, quelque chose qui ressemble davantage à une loi qu'à un évangile. Alors François rédige un texte, le confie à frère Élie, qui déclare bientôt l'avoir égaré. Alors le pauvre Élie se remet au travail. Et cette fois, le cardinal Hugolin veille au grain et participe à l'élaboration. Puis là, en 1223, le 29 novembre, la règle définitive est approuvée par le pape Honorius III, dont je vous ai parlé. Très courte. C'est fort peu l'évangile. Elle est subtilement dosée pour tenter de satisfaire les courants opposés. Elle laisse quand même percer des phrases où l'on identifie l'accent bien connu, je vous lis un petit passage, que les frères ne s'approprient rien, ni maison, ni lieu, ni quoi que ce soit. Imaginez. Et comme des pèlerins et des étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, qu'ils aillent avec confiance demander le monde. Alors, cette volonté expresse ne sera pas respectée bientôt grâce à des arguties juridiques. Les franciscains posséderont d'immenses propriétés par personnes interposées. Ils feront des études, ils vont compter des grands professeurs illustres comme Saint Bonaventure ou le bienheureux Don Scott, dont je vous parlerai bientôt, et des prédicateurs renommés comme Saint Antoine de Padoue. Et ils vont bénéficier de privilèges et d'exemptions, ils vont accéder aux dignités ecclésiastiques et au Metropolitan Museum of Art de New York. On avait récemment une exposition fantastique de merveilles qui venaient d'Assise, calices, tableaux, etc., qui lui ont été donnés aux franciscains. Magnifique, une très grande exposition. Toutes choses qui étaient défendues par leur fondateur. Alors, on prétend souvent qu'après tout, c'est sa faute et qu'il aurait dû se montrer moins intransigeant. Il y a un historien moderne qui écrit « Pour tout dire en un mot, rien n'avait été plus étranger à Saint-François que l'idée de l'évolution inévitable de tout ce qui vit. Mais l'ordre vécu. Alors exténué, délabré, presque complètement aveugle, les mains, les pieds et le côté percé comme Jésus son modèle, n'est-ce pas, il était stigmatisé, il meurt le 3 octobre 1226, Saint-François d'Assise, tandis que ses vieux compagnons, Ange et Léon, chantent le fameux cantique de Frère Soleil que vous allez entendre à la fin de l'émission. Il l'avait composé quelques mois auparavant, auprès de sa chère sœur Claire. C'est son dernier message. Celui où éclate le mieux son amour. Altissimo omnipotente bon signore. Très haut, tout puissant, bon Seigneur. À toi les louanges, la gloire et l'honneur de toute bénédiction. Oui, à toi seul, très haut, ils conviennent et nul homme n'est digne de mentionner ton nom. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui le jour donne la lumière à nos yeux. Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur. De toi, très haut, il porte le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Au ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent et pour l'air et le nuage, pour le ciel pur et tous les temps, par lesquels à tes créatures, tu donnes subsistance. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile, humble et précieuse et chaste. Et ça se continue comme ça se termine bien heureux. Ceux qui supporteront les tribulations dans la paix. Car par toi, très haut, ils seront couronnés. Et à ce moment, François fait un signe, et frère Ange et frère Léon s'arrêtent. Alors le petit pauvre salue celle qui vient à sa rencontre. Qui vient à sa rencontre? C'est la mort, hein? Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront en état de péché mortel. Bienheureux ceux qu'elle trouvera en tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. Alors puis tous ensemble conclut le cantique. Loué et bénissez mon Seigneur et remerciez-le et servez-le avec grande humilité. Oui, avec grande humilité. Ici Raymond Beaugrand Champagne, qui est très heureux de vous avoir parlé de Saint-François d'Assise. Ce saint qui va être très grand, j'en suis sûr, durant le troisième millénaire. Oui, vraiment. Ceci, je vous invite à être à l'écoute ce soir, n'est-ce pas, pour la reprise à 22 heures.